Vous écoutez
RMC.
C'est parti pour l'after jingle, 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Walid.
Alors mes 3 points, c'est PSG encore poussif, comme souvent en Ligue 1 cette saison. Mon deuxième point, c'est l'incompréhension des choix de Pochettino et surtout sur l'utilisation de certains joueurs clés aujourd'hui. Et mon troisième point, c'est Angers, une mi-temps et plus rien, même si on va pouvoir parler de l'arbitrage et notamment du deuxième but sur penalty. Je trouve qu'en deuxième mi-temps, ils ont arrêté de jouer, alors qu'en première, ils ont posé des problèmes au PSG. Et qu'à partir de ce moment-là, c'est très très compliqué face à même à un PSG moyen.
Efficace, 3 points, Walid Acharchour, Kevin Diaz.
En premier, c'est le Paris Saint-Germain qui s'en sort très 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 bien aujourd'hui. Parce que même si je suis d'accord avec Walid, Angers n'a joué qu'une demi-temps, derrière c'était quand même très poussif. Le PSG, on a souvent dit pour ce deuxième point, je dirais que le PSG, on l'a souvent traité d'inentraînable. Mais je crois qu'il est aussi inanalysable. Parce que celui qui peut me dire la composition, allez, je vais dire offensive, de la tactique de Pochettino, où a joué Mbappé, je sais pas trop, où a joué Verratti, je sais pas, Danilo, ouais, bref, on va en parler. Et en 3, bah, c'est quand même cette équipe d'Angers qui m'a vraiment fait plaisir sur la première période. On n'a pas vu cette équipe d'Angers qui venait en victime expiatoire lors des derniers déplacements.
Et pas expiatoire, comme disait ça, je disais.
Non.
Pour le rendre hommage.
On parle français.
Ancien adjoint du SCO d'Angers d'ailleurs, hein, de Stéphane Moulin. Ça, je le disais. Voilà pour les 3 points de Walid et de Kevin. On vous attend au 32-16. Petit point classement. Après, on évacue ça. Paris, fin début de saison, canon en termes comptables. 27 points sur 30 possibles. Plus 9 sur Lens avant son match ce week-end. Plus 11 sur Nice qui compte 2 matchs en moins. Angers, 4e, 16 points après 10 journées. J'accueille Yacine, dis-moi.
Mais ce que tu dis, Nico, c'est ça en fait qui était inanalysable. C'est que le début de saison du Paris Saint-Germain en termes comptables, il est parfait. Tu peux te permettre une défaite à Rennes, qui est une équipe ambitieuse, celle qui a recruté pour 80 millions, l'équipe qui a le plus recruté derrière le Paris Saint-Germain cette saison. Aucune infamie. Par contre, moi, quand je regarde un match, j'aime bien pouvoir dire après le match, oui, j'ai aimé le 3-4-3, le 4-3-3, j'ai aimé les courses, j'ai aimé les appels, les automatismes, un minimum d'automatisme, même si je le sais, et je ne m'attends plus à grand-chose. Un peu comme l'équipe de France, finalement. Je sais que le Paris Saint-Germain, c'est un peu comme une super team en NBA. Alors en NBA, ils sont 2-3 grandes stars pour 5 joueurs, donc c'est plus facile. Au Paris Saint-Germain, ils sont 3-4 grandes stars à faire jouer cette équipe offensivement. Et ensuite, il faut que l'entraîneur arrive à trouver un certain équilibre. Ça, on l'a compris. On s'attend pas à voir le collectif du Barça ou du Bayern. Par contre, je veux quand même pouvoir dire comment a joué le Paris Saint-Germain. Et j'ai l'humilité de dire que je ne peux pas dire aujourd'hui si le PSG a joué en 4-4-2 en losange comme c'était convenu. Est-ce que Verratti a joué 10? Est-ce qu'il a joué 8? Je sais pas. Honnêtement, il y a plein de choses après 90 minutes que je ne peux pas dire.
Ah mais c'est ça, pour rebondir sur ce que dit Kevin, un match de plus du Paris Saint-Germain sous Pochettino où on ressort très 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 peu de choses. Et je suis très gentil quand je dis très peu de choses. Ce soir, sur le système de jeu, sur les idées, sur les choix, sur la lecture du match, j'ai vraiment rien compris à ce qu'a mis en place Pochettino et ce qu'a donné le PSG. Il y a un tel écart individuel entre le Paris Saint-Germain et la Ligue 1. Et on le voit depuis le début de saison, l'impression visuelle qu'on a devant notre écran de télé ou au stade, et quand on va sur Flash Résultat ou Flash Score pour regarder le classement, il y a un tel décalage. Et c'est pour ça que c'est très très dur à analyser. Moi, je rejoins Kevin, parce que ce soir, on va encore être critique, on va encore dire que tu t'en sors miraculeusement. Et encore une fois, moi, j'aime pas parler d'arbitrage, mais ce soir, c'est quand même très favorable pour le Paris Saint-Germain, notamment sur le penalty. Ça a été le cas contre Lyon, ça a été le cas contre Metz, ça a été le cas sur beaucoup de rencontres depuis le début de saison, où tu sens que le PSG maîtrise très très peu de choses en Ligue 1, mais ça gagne, et ça finit toujours par gagner, qu'importe les choix du coach, qu'importe l'utilisation de certains profils. Tu en as parlé de Verratti, mais la rentrée de Wijnaldum à un poste sur le côté, moi je l'ai pas compris, le fait de garder Danilo Pereira devant la défense inutilement pendant 90 minutes, j'ai pas compris, mais ça gagne. Et le Paris Saint-Germain a une telle marge, et c'est pour ça que moi j'aimerais insister juste après Nico sur Angers et sur ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps, parce que je pense clairement que Angers avait les moyens de faire beaucoup plus quand le PSG
sort une première heure aussi insipide. Et le problème, c'est que quand tu veux pas tuer la rencontre avec le Paris Saint-Germain, comme Rennes l'a fait notamment avant la trêve, eh ben, tu t'exposes à la qualité de Mbappé. Mbappé, on a vu le match de ce soir. Mbappé, il fait un match très, très, très moyen, mais il met un penalty, une passe décisive. Et c'est le PSG. Et il faut l'accepter.
Et Danilo fait un match très moyen, et c'est lui qui marque de la tête.
Et Verratti, la même chose. Il fait un match très moyen, mais c'est lui qui donne le ballon de but à Mbappé sur le penalty de Icardi.
Mbappé, par exemple.
C'est le PSG, inanalysable.
Par exemple, Mbappé, sur l'égalisation, c'est lui qui frappe, provoque le corner, tire le corner, le ballon revient sur lui, passe décisive.
Aujourd'hui, il a tiré.
Danilo, il a tiré, tu vois comme ça, tu fais, mais quel match, encore une soirée de Kylian.
Non, mais il a tiré 6 corners, il a tiré 2 coups francs.
Mais alors que son match en lui-même n'est pas bon.
Oui, non,
combien de déchets, combien de ballons perdus.
Il y a quand même quelque chose.
Donnez la parole aussi.
Il y a quand même quelque chose avant de donner la parole à notre supporter parisien. Le fait que le Paris Saint-Germain accepte de jouer ce match sans trop rechigner, avec tous ces internationaux, notamment sud-américains, en tribune. Mais ça montre aussi que eux-mêmes savent qu'ils n'en ont presque pas besoin pour gagner un match de Ligue 1. Tu vois, tu regardes en Espagne, les matchs de certains gros, ils ont été reportés. Mais le Paris Saint-Germain, je ne les ai pas entendus se plaindre de ça. C'est-à-dire que s'ils ne se plaignent pas de ça, c'est-à-dire qu'ils ne veulent surtout pas.
J'ai écouté la conférence de Pochettino hier, effectivement, ils ne voulaient pas polémiquer ou évoquer ce sujet.
On est d'accord, calendrier. Mais c'est pas que je veux qu'ils râlent, mais c'est que c'est pas normal, en vrai, de ne pas en parler. C'est-à-dire que le PSG est tellement focus sur la Ligue des Champions qu'ils préfèrent jouer ces matchs avec une équipe B, et surtout, ils savent que ça peut suffire, et surtout se focaliser avec leur titulaire pour la Ligue des Champions. C'est quand même.
Yacine est avec nous, supporter du Paris Saint-Germain. Yacine, bienvenue dans l'after.
Salut Yacine.
Bonsoir.
Heureux de t'accueillir.
Bonsoir l'équipe.
Salut Yacine.
Ton sentiment, vas-y.
Comme d'habitude, en trois points, déjà d'une, la gestion des internationaux qui commence à me gonfler depuis pas mal d'années. Le PSG ne sait pas dire non et le PSG doit apprendre à dire non quand il le faut.
Tu veux dire comment ça dire non? Non, sélection.
Mon joueur reste chez moi, c'est moi qui le paye, donc il reste chez moi.
Au niveau réglementaire, c'est impossible. Le club n'a pas le droit d'empêcher. Écoute, Yacine, juste, ce que tu demandes, c'est tout simplement impossible. Le club n'a pas le droit d'empêcher un joueur de participer à un match date FIFA.
Vas-y, Yacine.
Moi, je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus. Le PSG n'a pas à se laisser faire par les fédérations. Voilà, c'est mon avis. Je suis désolé, pour avoir un joueur blessé en retour, c'est même pas la peine. Deuxièmement, la gestion des matchs en championnat, c'est pas normal. Moi, j'en ai marre que les résumés, ça soit l'adversaire en gros qui était proche de la victoire, c'est pas normal. Non, l'adversaire, il doit en prendre 6 et c'est tout. Voilà, il n'y a pas de match serré. C'est pas normal. Le PSG doit être un rouleau compresseur, c'est pas le cas. Donc on pose encore une fois la question de l'entraîneur, qu'est-ce qu'il met en place? Les profils d'entraîneurs qui viennent au PSG, tout talentueux soit-il, parce que je pense qu'ils ont tous des idées, mais ce ne sont pas les bons. Quand tu as la politique de star du PSG, c'est pas les bons. Voilà, c'est pas le bon type d'entraîneur qu'il faut. Si tu prends des stars, il faut un entraîneur qui puisse gérer des stars. Et il y en a pas 15 000. Voilà, il y en a à peine 2 ou 3. Hein, on sait qui c'est. Donc voilà, il y en a même un qui est disponible. Donc c'est tout bête. Et enfin, c'est ce manque de rigueur au quotidien où il y a depuis des années, il y a des mecs qui sont là, qui sont des installés. J'appelle ça des installés et qui profitent du buffet et qui entraînent un peu les autres. Je pense que ça entraîne un peu les nouvelles recrues. Comme des pommes pourries dans la médiocrité, dans la fainéantise. Et ces mecs-là, si tu ne les vires pas, les autres sont imprégnés. C'est les Verratti, c'est les Neymar, c'est tout ça. Voilà, et moi, je pense que ces gens-là sont des vraies pommes pourries qu'il faut se débarrasser au plus vite. Voilà, si le PSG veut avancer, il n'y a que comme ça qu'il doit faire.
Yacine, tu parlais de la gestion des stars. Et c'est Daniel qui disait ça l'an dernier, et je suis complètement d'accord, donc je vais le paraphraser. Mais les stars, ce n'est pas l'entraîneur qui doit les gérer. Les stars sont au club. C'est le club qui doit gérer les stars en imposant une espèce de force, un pouvoir, voilà ce qu'on disait, cette fameuse institution. L'entraîneur, malheureusement, il peut te gérer une star, mais là t'en as 7 des grandes stars, c'est quasiment ingérable. Donc là-dessus on peut pas taper sur les entraîneurs du Paris Saint-Germain concernant la gestion des stars.
Je suis d'accord avec toi, si l'institution donc n'est pas assez forte et que l'entraîneur n'arrive pas parce que c'est pas son boulot ou que des fois il lâche l'affaire, parce que tactiquement il y a rien qui est mis en place, qui galère, que lui-même je pense ça doit bouillir à l'intérieur parce qu'il se dit je suis obligé de faire ça parce que dans ce cas-là, et si l'institution n'est pas assez forte parce que eux c'est de la diplomatie à donf et c'est du soft power et compagnie, il faut changer complètement le projet. Il faut changer complètement le projet. Bah, si le PSG veut gagner,
tu peux pas changer le critère à ce moment-là.
Yacine, tu ne peux pas changer le projet.
Ah oui, mais moi,
puisque tout le monde veut que Kylian Mbappé reste coûte que coûte au Paris Saint-Germain, supporter et dirigeant.
Yacine, il me régale. Il veut changer toutes les FIFA, toutes les dates FIFA. Il veut changer tout le projet du PSG.
Il veut supprimer des sélections sud-américaines.
C'est incroyable, Yacine.
Yacine, pourquoi pas? Écoute, présente-toi à la FIFA. On ne sait jamais.
Mais si le PSG veut gagner, il n'y a que comme ça. Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est en imposer, déjà. C'est changer son modèle, c'est tout, c'est tout bête. Je veux dire, demain Mbappé, ils sont tous ah Mbappé, faut qu'il prolonge. Mais non, Mbappé, tu prends deux joueurs pour le remplacer, c'est leur, ça se trouve, aucun joueur n'est irremplaçable. Et puis c'est surtout, c'est qu'est-ce que tu veux faire, puisque tu veux faire une politique de stars, les stars, plusieurs stars, une star, ça suffit dans une équipe. Et puis tu mets des travailleurs autour.
Bon, le PSG a gagné quand même, Yacine, ce soir encore.
Oui, t'as gagné, on en revient à tu gagnes parce que t'as des individualités, alors que c'est facile de mettre quelque chose, un projet de jeu en place, et après on va parler de l'adversaire. Vous me parliez de Lyon, d'Angers, mais tout ça, normalement, peut-être pas Lyon, mais ça doit prendre une trempe. Tu vois, surtout au Parc des Princes, normalement.
On n'est pas en désaccord avec toi, là.
Ouais,
plus,
c'est ce qu'ils en ont pris 11 objets en deux matchs avant ce soir au Parc des Princes. Bon, Yacine, ton message est passé. Tu nous rappelles, t'es un habitué de l'after en plus. C'est très sympa de nous avoir appelé, Yacine. Excellente soirée à toi. Je vais accueillir Arnaud au 32-16. J'aimerais qu'on se ressente un peu sur le match, les gars, et les individualités. C'est ça qui m'intéresse ce soir aussi, à 4 jours de Leipzig en Ligue des Champions. Salut Arnaud.
Salut.
Salut reporter parisien. T'étais au Parc, je crois, c'est ça, hein?
Oui, j'étais au Parc, bien placé pour voir la fausse main.
C'est pas nous qui le disons, hein.
Non, c'est sûr.
Non, mais c'est pas que c'est une fausse main.
Non, il y a un contact.
Il y a une main dans la surface de réparation, mais le seul souci, c'est que la tête n'est pas cadrée. La tête d'Icardi, elle est ratée. Donc à partir du moment où la tête est ratée, est-ce qu'on peut considérer ça comme une occasion de but franche? Puisque en plus l'Angevin, on voit que c'est pas un geste volontaire. Alors certes, il a pas la main dans le dos, mais il a pas non plus la main au-dessus de la tête. Oui, si le ballon est cadré, je veux bien. Pourquoi pas? À la rigueur, l'arbitre peut juger que c'est une occasion de but franche. Mais là, on a vraiment l'impression que la balle, elle va en touche ou au moins en 6 mètres.
Il faut être honnête. Moi, je suis abonné Tribune Borelli à l'angle. Je pense qu'il n'y a personne dans le stade qui a même vu qu'il y avait main, et tout le monde a mis
ça. Ça s'appelle un penalty VAR. Oui, bon, ça parfois, quand tu revisionnes, tu vois ce que tu n'as pas vu en temps réel, surtout depuis la tribune. C'est pas évident. Ce que disait Kevin, et il a raison, si t'en penses Walid, c'est que la tête d'Icardi, elle n'est pas cadrée. Donc cette main n'annihile pas une occasion de but finalement. Il refuse derrière une règle, une discipline, tu vois, écrite noir sur blanc,
peut dire que
sans interpréter l'occasion, et donc on s'est pénalty pour prendre le moins de risques possible. J'ai appliqué la règle, il y aura pas de problème. Il y avait pénalty selon les règlements.
Après, moi, je suis pas le mieux placé pour parler d'arbitrage, mais ce qui me dérange juste sur l'action, c'est surtout que quand il va voir la vidéo, notamment, il revient pas sur la petite faute qui est quand même assez évidente de la part d'Icardi.
Oui, elle est évidente, Walid, mais elle est amplifiée par le
défenseur. Oui, mais il y a contact quand même. Il y a contact. Et ne pas avoir toutes les cartes pour prendre sa décision, moi, ça me dérange. Après, encore une fois, c'est l'interprétation de l'arbitre. On le sait très, très bien. On va pas refaire les débats ce soir. Moi, je préfère surtout parler de jeu et de ce qui a manqué au Paris Saint-Germain. Mais c'est surtout moi ça qui me dérange, Nico, sur cette action-là.
T'as raison. Sauf que les déclarations des Angevins qui nous parviennent là sont des joueurs affligés ce soir. Je pense à Romain Thomas qui lisait chez nos confrères d'Amazon à l'instant. Bon, c'est incroyable ce qui se passe. Perdre 2-1 ici, ce n'est pas une honte, mais comme ça, c'est impossible. On travaille toute la semaine pour faire quelque chose de propre. Je prends le temps d'aller lui expliquer à l'arbitre. Hein. C'est anormal que les arbitres ne prennent pas le temps. Le VAR, ça commence à me fatiguer cette histoire. On met des millions dans un truc, on ne sait même pas l'utiliser. Cela m'agace. Je suis passionné, dévoué. Je fais attention à ce que je fais. Il y a faute d'Icardi au départ. Il me tire le bras, je tombe, et après il joue sa position pour le penalty. Je suis frustré, voilà. Bon.
Après, honnêtement, les Angevins ce soir, ils peuvent être frustrés sur le penalty, mais honnêtement, ils n'ont pas fait grand-chose pour gagner le match.
Je suis d'accord.
Honnêtement, ça peut tourner. À partir du moment où de toute façon il n'y a pas une équipe qui fait le boulot pour gagner le match, ils savent que ça peut tourner sur une décision comme ça ou sur un fait de jeu.
Non, mais t'as raison.
Exactement, Fiska, cette fois c'est pour Paris. Ça aurait pu être pour Angers. Honnêtement, ils n'ont rien fait pour gagner le match non plus.
T'as raison d'insister là-dessus, parce que moi je l'ai dit un peu dans mes trois points, après on parlera du PSG. On va peut-être me dire, Walid, t'es assez dur avec Angers, parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, ils ont posé des problèmes au PSG. Mais moi, je trouve qu'on doit être encore plus exigeant avec les équipes qui viennent au parc, surtout face à la production du Paris Saint-Germain collectivement. Et sincèrement, sur la deuxième mi-temps notamment, il n'y a aucune sortie de balle maîtrisée de la part d'Angers. Dans les intentions, on a senti qu'à 1-0, c'était terminé. Alors qu'en première mi-temps, on a vu un Jimmy Cabot très très haut, on a vu un Capel très très haut, on a vu Bouffal omniprésent, Fulgini entre les lignes. Et il y avait moyen d'aller vraiment tuer cette équipe du PSG. Et c'est vrai que t'as raison d'insister là-dessus. Plus le match avançait, alors nous on a un curseur très élevé avec le PSG parce que c'est une super team et parce que, comme le disait l'auditeur précédent, bah cette équipe-là, elle doit tuer ses adversaires, notamment au parc, en nous proposant du spectacle. Mais globalement, si on doit analyser à froid deux équipes neutres, le PSG sur la deuxième mi-temps est nettement supérieur à Angers. Et ça, c'est problématique. Parce que je pense que, bien entendu, qu'il y a l'effet de jeu qui rentre en contre. Mais la frustration, c'est bien. Mais de faire un peu plus en deuxième mi-temps avec ballon, ça aurait été mieux. À part l'entrée de Bilal Brahimi, qui a essayé sur des Ave Maria à 40 mètres du but pour aller essayer de créer sa chance. On a vu très peu de choses pour Angers.
On vous attend, supporter Angevin, dans un instant.
NFL de Walid Ave Maria. Mais
tu rends hommage au sport US, Walid, tu vas rentrer dans la poche de Kevin Diaz.
Après, non, je te trouve dur avec Angers.
Je
vais te dire
Angers dans un second temps, Kevin. Okay. Okay. Non, on écoutera Baptiste en conférence de presse qui lui aussi a remonté par rapport à ce qui nous revient actuellement. Parlons des joueurs, parce qu'on a vu un effectif remanié au Paris Saint-Germain. On a revu Colin Dagba, par exemple.
C'était catastrophique, c'était même plus l'équipe A'. Honnêtement, j'ai découvert que Raphaël était encore dans l'effectif.
Raphinha catastrophique.
Je vois absolument pas à quoi il sert. Il est complètement perdu sur le terrain. Quand le peu de fois où il essaye de dribbler et d'accélérer, c'est dans le mauvais sens.
Je veux bien tomber sur les individualités, mais encore une fois, un joueur comme Raphinha qui a un match sur 10, un match sur 9 au Paris Saint-Germain où il sait très bien que son sort est scellé.
Non, mais
c'est pas ça.
Chacun votre tour. Vas-y, Walid, après.
Et encore une fois, bien entendu que Raphinha rate son match, mais moi, j'aimerais bien mettre l'accent sur le manque de lien collectif. Vous avez compris la composition de départ de Pochettino?
Vous avez compris
le positionnement de Raphinha? Vous avez compris ses choix de latéraux? Parce que les choix de latéraux dans un 4-4 de losange, c'est pas Kevin que je vais le dire, mais l'importance des latéraux, c'est primordial. Tu te coupes de Hakimi, Nuno Mendes, ok, très bien, il y a le match contre Leipzig qui arrive, on a compris, c'est eux qui vont être titulaires. Mais tu veux relancer Dagba, tu veux remettre Diallo, mais même en deuxième mi-temps, alors que c'était très très compliqué en première, tu fais rentrer Bernat, qui a eu aucun match depuis très très longtemps, qui passe devant Nuno Mendes. Les latéraux n'ont pas été bons.
Il y a autre chose, Arnaud. L'utilisation de Marco Verratti, il a été exceptionnel face à Manchester City en numéro 6 devant la défense, rampe de lancement, récupérateur de ballon. Et là, aujourd'hui, tu le mets dans une ligne de milieu de terrain offensif où il joue dans des tout petits espaces,
très haut, trop haut.
D'ailleurs, où il perd le ballon pour le but Angevin, parce qu'il tournicote un peu comme dit, tu vois, et vous avez compris. Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu laisses Danilo à la base du jeu en tant que regista là, à venir entre les deux centraux et à faire le jeu? Danilo, c'est un joueur que j'apprécie, mais ce n'est pas un joueur qui est là pour être le meneur de jeu reculé de l'équipe. C'est un joueur qui est là à la rigueur pour récupérer les ballons et donner à Marco Verratti à côté.
Avec ballon, il fait très peu de différence, surtout face à un bloc bas comme Angers en deuxième mi-temps. Mais Verratti, où est la cohérence, sincèrement? Et on en parlait un peu avec Roland Courbis juste avant. Où est la cohérence de Pochettino de se dire que de toute façon contre Leipzig, il va sûrement jouer devant la défense comme Manchester City parce qu'il va avoir un gros pressing des Allemands. Et là, en l'espace de 3 jours, donc Verratti passe de numéro 10, numéro 8 très très haut, à numéro 6 devant la défense. Elle est où la cohérence, sincèrement? Et moi, ces choix-là, ils commencent à devenir très très récurrents avec Pochettino. L'utilisation de Wijnaldum, qui a été quand même, bon, alors il a été acheté libre, très bien, etc., mais c'était un joueur sur qui on comptait quand même sur le début
de
saison.
C'est de le jouer, c'est de le relancer, bien sûr.
Est-ce qu'il doit pas être relancé aujourd'hui? Et quand il rentre dans quelles conditions? À quel poste? Mais Wijnaldum, on le voit avec les Pays-Bas ou avec Liverpool, il l'a jamais joué. Et il faut remonter à Newcastle pour le voir dans ce positionnement-là. Ouais, lié.
Arnaud, vas-y.
Ça fait 6 ans. En fait, je comprends pas.
Le problème à la fin, c'est je pense que t'as raison, c'est les conditions dans lesquelles on essaye de relancer certains joueurs.
T'as aucun cadre.
Là, au final, tous ceux qu'il a essayé de relancer aujourd'hui, ils partent avec zéro de confiance. Ils ont fait un match complètement nul. Le peu qui ont essayé d'émerger, ils étaient perdus sur le terrain. Ça fonctionnait pas. Et Wijnaldum, franchement, moi, j'ai regardé tout son échauffement.
mais il tirait déjà la gueule d'être remplaçant sur ce match-là.
Effectivement, il a dit lui-même. Donc,
qui se demandait franchement, mais pourquoi il avait signé à Paris.
Mais même Draxler.
Derrière des joueurs qui sont rentrés aujourd'hui, c'est scandaleux. Après, moi, ce que je comprends pas, c'est un Colin Dagba. Honnêtement, il est rentré, il a dû faire deux centres, dont un qui est parti au troisième poteau. Il a pas du tout débordé. L'entrée de Bernat, ça a eu au moins le mérite de réchauffer le Parc des Princes, parce que franchement, la deuxième mi-temps, on commençait à s'endormir. Et ça rappelait vraiment les pires matchs en automne. Mais au moins, quand Bernat est rentré, Mbappé, il a recommencé à dédoubler, et puis comparé à Diallo, il a vu ce que c'était de se retourner et d'avoir un mec qui était passé derrière.
Bernat Arnaud, il pouvait pas débuter le match, ça c'est clair. C'était pas une option viable.
Il a apporté au moins un peu de réveil en deuxième mi-temps.
Oui, il a apporté
ce qu'un latéral devait apporter. Parce que
non, Diallo, mais ça on est d'accord.
Moi je veux bien que Diallo soit physique, qu'il reste bien derrière, mais il faut quand même qu'il apporte un petit peu plus, quoi. Et puis alors le dernier, moi je voilà après voilà, mais Icardi, honnêtement, est-ce qu'on peut accepter des entrées d'Icardi comme ça sur des matchs où il est censé prouver?
Non, t'as raison, c'est pas normal.
PSG, quoi.
C'est pas normal.
Honnêtement, franchement, sa tête, c'est un scandale. En première mi-temps, il a deux occasions. Honnêtement, c'est scandaleux.
C'est pas normal.
Alors que Icardi, il est dans de bonnes conditions.
Non, mais tu as raison.
Il est encore là, quoi.
Tu as raison d'insister là-dessus. La passe de Verratti à 0-0, elle est incroyable. Il rate son contrôle. Pénalty, mais il est en retard sur sa prise de balle. Et c'est pas normal de ne pas être alerte dans la surface de réparation, alors qu'un attaquant de ce standing qui a été acheté pour énormément d'argent doit être maître dans ce secteur-là. C'est pas le cas. Et puis tu l'as dit, en deuxième mi-temps, même dans son jeu dos au but, même si on n'est pas surpris, on est plus surpris avec Icardi. On sait que c'est un joueur de boîte, c'est un joueur de surface. Quand je dis de boîte, c'est pas de boîte de nuit, hein, bien entendu. Vous m'avez compris.
Ça c'est d'autres.
Ça c'est d'autres. Mais surtout, sur la grosse occasion avec le centre de Mbappé, c'est pas fluide. On sent que c'est pas fluide. On sent qu'il y a toujours un problème. Et la rentrée de Bruges, alors il sauve son début de saison, si on peut appeler ça comme ça, parce que moi je suis pas d'accord du tout. Mais avec ce but contre Lyon à la 90e minute. Mais c'est trop peu. C'est trop peu.
Messieurs, si on essaie, Arnaud, je te pose la question, toi qui es supporter du Paris Saint-Germain, de trouver quelque chose quand même de positif sur la soirée du PSG. Ah,
Kylian Mbappé.
Mbappé, il perd beaucoup de ballons aujourd'hui. Alors, il est décisif.
Il a l'image du PSG, Mbappé, ce soir.
Il est décisif, il fait la passe, mais il a perdu plus d'un ballon sur trois aujourd'hui. C'est énorme.
Il est encore décisif.
Par contre, il est encore décisif. Ok, mais
vas-y, Arnaud.
Qui d'autre?
Dans une équipe où ça n'avait aucun sens, c'est le seul.
Oui, on est d'accord.
Et surtout, de faire son boulot et qui était là au moment où il fallait. Voilà.
Bon, Kimpembe, il est costaud derrière, on peut le dire.
Kimpembe, très costaud.
Et encore en première mi-temps, sur la profondeur avec Mohamed Ali Chou, il était en difficulté quand même.
Bah, il est bien revenu quand même.
Après, encore une fois, Kimpembe et Mbappé, c'est quand même très très dur de leur en vouloir. Ils viennent de gagner une Ligue des Nations, il y a trois. C'est, j'y pensais moi devant ma télé.
Le match, il est horrible.
Bah, c'est quand même très très dur. Et tu l'as dit, Mbappé pour moi fait un mauvais match, quand je dis dans son ensemble. Hein. Mais encore une fois, la lumière vient de lui. Et à l'image du Paris Saint-Germain, bah ce soir, c'est lui qui te ramène les trois points. Mais pour répondre à ta question, Kevin, encore une fois, on va revenir trois jours après avec le PSG. On va avoir une équipe totalement différente, que ce soit dans le choix des hommes ou sur le terrain face à Leipzig.
De fait.
Et voilà, ça va être la routine quotidienne toute la saison. Et tous les débriefs du PSG, on va dire la même chose. Et c'est un peu lassant.
Ils sont champions avec 94 points à la fin de la saison. Merci Arnaud.
Merci.
Arnaud. Excellente soirée à toi. Arnaud, tu reviens quand tu veux dans l'after. Tiens, alors un supporter lyonnais nous a appelé également ce soir. Ah. On invite rarement un supporter.
Il joue demain, Lyon-Monaco,
mais il veut parler de ce match aussi. On fait rarement ça, mais je crois qu'il
n'y a pas le droit de nous parler du pénalty. Hein.
Jean-Claude est avec nous. Salut Jean-Claude.
Ouais, bonsoir. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous.
Alors pourquoi tu veux nous appeler pour parler du PSG?
Moi je passais dans l'after il y a assez longtemps, j'avais eu quelques mots avec Daniel, donc pendant quelques temps j'ai pas appelé, je m'étais éloigné un petit peu, et ce soir j'ai regardé le match. Alors moi j'ai pas envie d'appeler en tant que supporter lyonnais, ce qui m'a fait vous appeler c'est la réaction d'un de mes bons potes, d'ailleurs je le salue, Romain, supporter niçois, pur et dur, hein, qui va au match.
C'est compliqué là.
Et oui, mais bon, enfin... Mettez-vous à la place des clubs comme Nice, comme il y a des villes qui jouent bien au foot en France. Il y a plein de villes qui jouent. Angers joue très bien au foot. Ça commence à faire beaucoup. Vous voyez, vous êtes à côté de la plaque ce soir dans votre débat. Je vous écoute et depuis un quart d'heure vous parlez du PSG.
Que Daniel t'a allumé il y a quelques années.
Non, attendez, laissez-moi finir, c'est important. Qu'est-ce que la France du foot en a à faire des affres du PSG ce soir? Une fois de plus, l'arbitrage fait tourner
le match et donne les 3 points au PSG. Ça fait combien de points sur la saison? Ça fait combien de points sur toutes les saisons qui se sont passées?
Est-ce non, mais attends, Jean-Claude, excuse-nous, mais on peut pas dire que le Paris Saint-Germain a gagné ses titres grâce à l'arbitrage depuis 7 ans.
Est-ce que vous avez besoin de ça pour gagner? Est-ce que vraiment vous avez besoin de ça pour gagner? Alors pourquoi est-ce que il y a à chaque fois une décision qui est favorable au PSG?
Non,
je vais te dire. Alors, je te fixe un défi, Jean-Claude. Tu rappelles le 32-16 et tu nous fais une vraie étude. Voilà, comptable, des erreurs d'arbitrage qui apportent des points.
Jean-Claude, tu verras qu'à la fin. Tu nous as posé une question, Jean-Claude. Est-ce qu'on peut te répondre? Pourquoi le Paris Saint-Germain a plus de situations litigieuses? Parce que le Paris Saint-Germain, ce soir, a 75% du temps le ballon. Et sur les 75%, écoute-moi, Jean-Claude, s'il te plaît, on t'a laissé poser ta question.
Vas-y.
Et sur les 75% du temps, le PSG est 80% du temps dans le camp adverse. Forcément, il y a plus de chances. C'est mathématique qu'il se crée des opportunités et que certaines soient litigieuses.
D'arbitrage.
Donc, on ne pas dire n'importe quoi. À l'époque de Lyon, à l'époque où Lyon a enchaîné les titres, bien sûr qu'il y avait plus de pénalties pour Lyon puisqu'ils attaquaient plus que les autres.
Oui, puis même, Lyon est favorisé par l'arbitrage. Un Marseillais va dire que le Lyonnais a toujours l'arbitre dans ce.
Franchement, vous n'êtes pas honnête.
Non, mais en fait.
Sur une saison. Je pense qu'on est très honnête,
Jean-Claude, je veux bien que tu nous le prouves, en fait. Nous, je suis journaliste, il faut m'apporter des faits, tout simplement, statistiques. C'est ça que je veux. Mais je suis pas sûr que tu sois en mesure de le faire ce soir, pour l'instant.
À la fin de la saison dernière, il y a eu un tableau qui a été publié sur le nombre de décisions défavorables en Ligue 1. Paris est deuxième, c'est-à-dire a eu quasiment le moins de décisions défavorables. Lyon était 19e.
Et qui était premier? C'est intéressant parce que
j'ai envie de parler des clubs qui jouent bien au football en France. Ce soir, Angers ne doit jamais repartir avec zéro point. C'est une honte et ça tourne toujours en faveur de Paris.
Le message,
donc, au bout d'un moment, ça se voit.
Le message est passé, Jean-Claude. Merci d'avoir fait le 32-16, ouais. Jean-Claude. Et puis tu reviens quand tu veux et pourquoi pas demain soir pour évoquer le match Lyon-Monaco qui sera au programme de l'after du samedi soir. Merci, Jean-Claude. Excellente soirée à toi. Voilà pour le PSG. On attend des réactions, notamment en conf de presse ou en zone mixte, en zone interview. Notamment des joueurs angevins. C'est l'after. Walid Acharchour, Kevin Diaz. Reste avec nous, on est ensemble jusqu'à minuit.
RMC. L'after foot. Nicolas Jamin.
Walid Acharchour, Kevin Diaz. Gérald Baticle, entraîneur d'Angers, entraîneur battu demain par le PSG en conférence de presse.
Même de la colère, d'incompréhension. Je me sens pas bien parce que j'ai toujours dit à ma famille que je ne pleurerai jamais par rapport aux décisions d'arbitre et ce soir c'est plus fort que moi. Donc je veux pas pleurer, mais je veux essayer de m'expliquer par rapport à ce qu'on ressent lorsque on est dans cette situation. Je suis favorable à la VAR parce que pour moi la VAR corrige 70-80% des erreurs. Par contre, lorsque vous êtes dans les 20% qui ne sont pas corrigés, ça fait très mal. Il y a beaucoup d'incompréhension, un gros sentiment d'injustice. Et c'est très dur. Alors c'est très dur pour mes joueurs en premier. C'est tout simple sur le second but. On a la capacité avec la VAR de revenir pour savoir s'il y a main ou pas. Et moins de 2 secondes précédemment, on n'a pas la capacité à voir que mon défenseur il se retrouve allongé au point de pénalty parce qu'il est plaqué au sol. Dans le football, si vous voyez un défenseur qui peut sauver un but s'allonger, c'est pas possible. Comme on ne peut pas voir un attaquant, alors qu'il est en position de marquer, s'allonger dans l'autre surface. C'est qu'il y a une faute, évidemment. Donc on comprend pas pourquoi la VAR est parvenue... 2 secondes précédemment. Je pense que tout le monde l'a vu. Toutes les personnes qui ont vu le but, on reçoit des tonnes de messages. On l'a vu en direct et on nous l'a confirmé ensuite avec les angles. Ça, c'est pour le deuxième but. Et pour le premier, mon technicien vidéo, qui est pourtant très performant, il n'a pas des super angles. Et pourtant, il voit la main de Kylian Mbappé réclamer le ballon. Au moment où on lui donne, il est en position de... Alors, la main n'est pas en position de hors-jeu puisque la main ne fait pas partie du corps qui va jouer le ballon. Mais c'est quand même assez simple d'imaginer où se situe le corps par rapport à la main. Et par rapport à ça, on peut voir que le corps est en position de hors-jeu au moment du départ du ballon. Donc, sur le terrain à chaud, on a vu ces 20% d'erreurs potentielles par rapport à la VAR sur le deuxième but. Et après, à froid, avec le petit angle que mon technicien a trouvé, on imagine également une situation. Donc, c'est pour ça que c'est très dur. C'est doublement difficile à encaisser. Je vous avais dit en préalable, j'ai pas envie de passer mon temps à discuter, mais c'est vraiment dur de perdre contre le PSG parce que les joueurs étaient déterminés, ont fait un gros match. Je leur avais demandé non seulement d'être à 100% de leurs moyens individuellement, mais d'avoir une synergie collective d'une grande force, c'est la seule possibilité pour faire un exploit et gagner au parc. J'ai oublié un élément, c'est qu'il faut aussi que la VAR, elle soit à 100% de ses moyens et qu'elle soit très performante avec nous, enfin avec le football. Donc il a manqué quelques éléments.
Voilà.
Après, je préfère vous parler de foot.
La réaction donc de Gérald de Baticle, on va parler de foot avec les supporters en juin qui nous ont rejoints, sont très forts. Ouais. Je trouve assez digne quand même, très solennel dans le ton également, Gérald Baticle. Et effectivement, si vous nous écoutez, vous ne voyez pas forcément l'image. Il a les yeux un peu embués. Je pense qu'il y a de la nervosité, il y a de la déception, et il y a de la tristesse profonde également.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le visionnage de l'arbitre et le fait de ne pas reculer deux secondes avant pour moins.
Exactement.
Faire sa propre interprétation.
Nous, on était restés sur la tête, mais c'est vrai qu'il y a l'accrochage.
Et pour avoir pris la carte, qui est pénalty ou pas, qu'il regarde toute l'action. Alors, sur ça, je peux le comprendre.
Lui, il nous apporte encore un. Pendant le match, ici même à la radio, moi, je me suis demandé. Moi, je pensais que Kylian Mbappé était hors jeu, mais l'angle n'était pas assez large pour voir la vraie position de Kylian Mbappé. Donc, on n'a pas pu vraiment juger au ralenti. Maintenant, il nous parle de son technicien. Voilà, nous, on n'a pas vu les images.
Surtout sur le deuxième, moi.
On pourra pas se prononcer, mais c'est vrai que cette tristesse, elle est parlante parce que c'est vraiment l'entraîneur qui a vu que son équipe pouvait au minimum accrocher un point au parc après déjà un très beau début de saison. Forcément, c'est frustrant. Forcément, on peut comprendre et je trouve qu'il a été plutôt digne, même si je suis pas du tout d'accord avec lui pour dire que la VAR, c'est intéressant. Ça, c'est la vie de chacun.
Aurélien est avec nous, supporter du SCO d'Angers. Salut, Aurélien.
Oui, bonsoir.
Heureux de t'accueillir. Je voudrais qu'on parle de l'arbitrage. On va l'évacuer. Ça y est, on a fait long dessus. Ouais. Je voudrais qu'on parle de la prestation.
Ce que je voulais faire.
C'est super. De ton équipe ce soir. Vas-y. Qu'en as-tu pensé?
Ouais. J'évacue la frustration arbitrale. Disons que je partage un peu la frustration de Romain Thomas ce soir au micro d'Amazon. J'avais envie de crier devant ma télé, mais faites-vous confiance, les gars. Faites-vous confiance. Wally tout à l'heure a parlé des ressorties de balles qui étaient pas forcément propres. C'est pas tant la propreté qui me dérangeait, parce que du déchet on peut en avoir, mais c'est surtout la rapidité. On a des joueurs devant qui sont rapides. Je pense que Mohamed Aïchou il pouvait prendre de vitesse n'importe quel défenseur parisien, mais j'ai l'impression qu'on était très très timide sur ces ressorties de balles. Et je pense que c'est aussi dû à la manière dont on joue depuis le début de la saison. On joue pas aussi bas d'habitude, surtout quand on joue chez nous. Et le fait d'avoir un jeu de passes courtes, de ressorties très propres, de prendre notre temps parfois dans le jeu, là, comme on joue pas tout à fait de la même façon que d'habitude, comme on était très bref sur le terrain, eh ben, Shaw, Fujini, ils avaient la balle, ils avaient encore 40 mètres à parcourir, hein, et ils osaient pas. Prendre de vitesse les défenseurs parisiens, et je pense qu'ils étaient en mesure de le faire. Ils ne se sont pas fait assez confiance, en fait, je pense.
Non, mais je suis d'accord avec toi, et j'ai insisté là-dessus. On était un peu en désaccord avec Kevin, et ce sera l'occasion de développer, parce qu'il n'avait pas... Il n'avait pas le temps tout à l'heure, mais j'ai trouvé la première mi-temps, encore une fois, intéressante dans les principes de jeu. On sait qu'ils vont pas avoir le ballon face au Paris Saint-Germain, mais ça a explosé, ça giclait beaucoup plus rapidement qu'en deuxième mi-temps. Ça accompagnait beaucoup plus, je le disais tout à l'heure, avec les pistons Jimmy Cabot et Capel. Entre les lignes, Fulgini et Boufal étaient très intéressants. La profondeur d'Alicho faisait beaucoup de mal à Kipembe, et je l'ai trouvé, alors bien entendu, il est très très jeune, mais j'ai trouvé qu'il avait eu un peu de déchet dans le dernier geste, parce qu'il y avait des coups à jouer. Mais le problème, c'est que ça s'est arrêté à la 45e minute. Et bien entendu que la frustration de l'arbitrage, elle est présente, c'est normal. Et la déclaration de Baticle est très, très poignante à ce sujet. Mais si on dépasse ça, parce qu'à un moment donné, on fait un débrief d'une heure, il faut aussi qu'on parle de ce qu'on a vu de Angers. Et en deuxième mi-temps, ça s'est vraiment arrêté. Ils ont éteint la lumière, alors que le PSG n'était vrai jusqu'à la 60e. Ça s'est un peu plus accéléré en deuxième mi-temps avec quelques changements. Mais avant ça, il y avait vraiment moyen de faire mal à la récupération du ballon. Et moi, le fait de défendre et d'avoir 25% de possession contre le PSG au Parc des Princes, ça ne me dérange pas. Le problème, c'est que quand tu le récupères, qu'est-ce que tu en fais? Et le problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, à chaque récupération du ballon, il n'y avait très peu d'idées. Il y avait beaucoup plus.
Je vais te dire pourquoi c'était quasiment impossible pour Angers en deuxième mi-temps de faire ce qu'ils ont fait en première. Déjà parce que sur la première mi-temps, ils font des transitions, notamment sur le but. Ils récupèrent le ballon dans les pieds de Verratti à 80 mètres du but parisien. et ils se projettent vers l'avant, et comme tu l'as dit, ils l'ont fait 2, 3, 4, 5 fois en première période. Et ces maîtres-là, ils sont très difficiles à faire, parce qu'ensuite, il faut les faire dans l'autre sens, et c'est tout ça, ce sont des sprints à haute intensité. Et à partir du moment où tu mènes, en plus juste avant la mi-temps comme ça, contre le Paris Saint-Germain, forcément, quelle est la force du Paris Saint-Germain, et surtout de Kylian Mbappé? La force du Paris Saint-Germain et de Kylian Mbappé, c'est de jouer les phases de transition. C'est d'attendre de te faire sortir et d'attendre pour mieux te contrer. Ça, on le sait tous, c'est les Angevins les premiers. Et donc, forcément, c'est naturel, même si dans l'idéal, ils auraient fait ce que tu as dit, c'est-à-dire, ils auraient pu continuer de jouer les phases de transition. Mais tu as vu, Mohamed Ali Chaud, c'est un jeune joueur. À la 65e, il avait des crampes. Donc, physiquement, c'était compliqué. Je pense que derrière, c'était pareil. La charge mentale que tu dois mettre pour défendre au Parc des Princes, à te dire, putain, on est en train de faire l'exploit de l'année. Peut-être l'exploit du club. Ça fait, je sais pas combien d'années. Je vous dis comment ça se passe sur un terrain. Après, peut-être, ça aurait pu être autrement. Et pour finir, si tu sors trop contre le PSG en deuxième mi-temps, avec la fatigue, avec un peu moins de concentration, tu sais qu'ils peuvent t'en planter un, et de toute façon, une fois que tu prends l'égalisation, après, c'est compliqué. Donc, honnêtement, le plan de jeu des Angevins, certes, il était trop restrictif en deuxième mi-temps, mais je pense que malheureusement, c'est difficile de faire autrement.
Kevin, pour gagner au Parc des Princes, on l'a vu sur les années précédentes, que ce soit Lille, que ce soit Nantes en fin de saison,
Monaco,
que ce soit même Lyon qui était à deux doigts, encore une fois, et qui méritait beaucoup plus que Angers.
Mais Lyon marque en deuxième mi-temps. C'est pas pareil.
Oui, mais en deuxième mi-temps, ils ne sont pas arrêtés. Même Lyon l'année dernière, avec le but de Toko Ekambi à 1-0, sur la première, toutes les transitions, faut les exploiter avec le Paris Saint-Germain.
Bah, ils ont essayé.
Et le problème, c'est que si tu me dis qu'ils n'avaient pas la caisse physique, ok, d'accord, très bien, je te rejoins là-dessus. Mais ce soir, quand tu dois faire la somme et l'addition de ce qu'a proposé Angers, le résultat n'est pas non plus un scandale.
Ah non, pas du tout.
Bien entendu que les conditions et l'arbitrage peuvent te laisser des regrets, mais défendre pendant 45 minutes avec les joueurs de ballon que tu as, parce que l'auditeur, il a raison d'insister là-dessus. Moi, à chaque fois que j'ai vu Angers cette saison, hormis peut-être le match contre Nantes, et encore, même en première mi-temps, c'était plutôt intéressant malgré le 4-1, c'est une équipe offensive, c'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui a des profils pour se projeter.
Oui.
Et le problème, c'est que c'est dommage de ne pas avoir joué le coup à fond. Je dis pas, bien entendu, de jouer à 40 mètres de son but face à Kylian Mbappé. Bien entendu, c'est du suicide. Mais il y a un juste milieu entre les deux. Et en deuxième mi-temps, je suis peut-être dur. Mais en deuxième mi-temps, pour moi, face à ce PSG-là, un PSG-B, un PSG qui balbutie son football, je pense qu'il y avait un petit peu moyen de faire un peu mieux.
En tant qu'équipe, il faut aussi reconnaître que la bête est blessée et que tu peux,
exactement,
comme on fait les Rennais, avec un peu de réussite, parce qu'il marque juste
bien
après
sûr,
la mi-temps.
Il faut la créer,
c'est vrai. Je l'entends, mais regarde, si je parle pour finir de Jimmy Cabot, qui joue aujourd'hui piston. Oui. C'est pas son poste.
Bien sûr.
Les efforts, ils sont démultipliés pour lui.
C'est une vraie révélation pour lui.
Il est à l'aise dans son profil.
Ouais, mais c'est une vraie trouvaille de Baticle. Une vraie trouvaille de Baticle.
Exactement, c'est le Jimmy Cabot, c'est le meilleur joueur en juin depuis le début de la saison. Et il a encore fait un bon match aujourd'hui.
Le Jesús Navas en juin.
Je crois que c'est celui en Ligue 1 qui fait le plus avancer le ballon. Sur un terrain devant Kylian Mbappé. Il y a une stat assez spectaculaire. C'est lui qui gagne le plus de terrain, comme on dit au rugby, parmi les joueurs en Ligue 1. Merci Aurélien. Merci d'avoir appelé
Merci beaucoup, Aurélien.
Et à très vite Aurélien. Dans un instant, messieurs, on va mettre de côté, Paris-Angers. On va évoquer la conférence de presse de Christophe Galtier pour boucler le feuilleton. Sait-on jamais, hein. C'est un peu la meilleure série Netflix de ce début de saison, quoi. Le feuilleton Andy Delors de Galtier a répondu à Belmadi, c'était hier sur RMC. On écoutera un extrait de la conférence de presse et puis on parlera également d'Olivier Giroud. C'est l'after du vendredi soir avec Kevin Diaz et Walid Acharchour. À tout de suite.